et ses invités.
Ils sont deux avec nous pour évoquer ce personnage plus que troublant, fascinant, un voyant prodigieux. C'est le titre de l'ouvrage de Bertrand Meeust. Je vais appeler votre nom parce que Meeust, ça s'écrit M-E-H-E-U-S-T. Et le livre est publié par les Empêcheurs de penser en rond. Djouar Siamed, son ouvrage Psychologie et psychanalyse. Alors, restons deux secondes. Je rappelle aussi l'époque à laquelle il vivait. Il est né en 1826. Il est décédé en 1886. Voyons un cas. Il y a deux cas. Avant de parler des échecs, parce qu'il y a aussi des échecs, hein, tout ne marche pas à chaque fois. L'histoire d'un commerçant d'Antibes, je crois, qui trouve dans son jardin, dans sa propriété, une pièce romaine.
Oui, il trouve une pièce romaine et donc il l'a fait envoyer à Paris. À un associé de son affaire qui va consulter Alexis. Donc ça prouve déjà une chose, c'est que un peu partout il est connu pour ce type de phénomène. Et Alexis demande qu'on lui envoie un plan de la propriété parce que le commerçant veut savoir s'il y en a d'autres, bien sûr. Et Alexis reçoit le plan de la propriété et un plan détaillé et il localise un endroit où il faut creuser. Et là, on creuse et on trouve une urne remplie de pièces d'or.
Mais il le précise d'ailleurs. Oui, il dit à cet endroit-là, on va trouver un véritable trésor. Bon.
Alors, on trouve le trésor. Ça fait l'objet d'un article qui est paru dans la presse de l'époque, qui sera d'ailleurs utilisé comme exemple par Jules Favre, le célèbre avocat Jules Favre, lors du procès d'Alexis, pour montrer que son client a bel et bien les pouvoirs qu'il annonce. Alors il faut rappeler que selon Delage, un proche d'Alexis, Alexis avait fait de très nombreuses découvertes d'objets. C'était une de ses fonds de commerce en réalité. Il prétendait Delage avoir un dossier de plus de 400 cas de découverte d'objets effectués par Alexis dans ce genre de conditions. 400 cas. Malheureusement, ce dossier ne nous est pas parvenu.
Alors, il faut savoir aussi que nombre de pièces ont été détruites, hein, même s'il en reste quelques-unes. Et heureusement qu'il a côtoyé des gens importants,
oui,
qui, eux, laissaient des écrits.
Oui, les pièces ont été détruites. Il avait, selon un descendant du frère d'Alexis, j'ai retrouvé un descendant du frère d'Alexis, M. Hagenauer, qui est un ingénieur, qui m'a donné certaines informations sur la famille, le contexte, etc.
Mais il y a eu une grand-mère à Trabilaire.
Alors, c'est-à-dire que la femme d'Adolphe était une anglicane pieuse, et ses filles ont été élevées dans cette ambiance religieuse, puisque Adolphe a vécu une partie de sa vie à Londres. Et une des filles d'Adolphe a détruit le journal. Elle avait un coffre avec les textes faits par les deux frères, qui, semble-t-il, auraient fait des expériences ensemble. Ils avaient une sorte de journal de bord, journal intime, qui a disparu, qui a été brûlé, parce que à l'époque, dans les milieux de la catholique rigoriste, on considérait les deux frères comme ayant fait un pacte avec le diable pour acquérir leurs dons. Et donc, ça sentait le soufre.
Alors, on va voir le contexte après. Je voudrais une dernière histoire. Il y en a d'autres, mais il va nous falloir parler des échecs aussi. C'est l'histoire de la duchesse de Séville.
Oui. Alors ça, c'est un des cas les plus étonnants.
Ah,
d'abord, il faut préciser qu'il est la duchesse de Séville. C'est l'infante d'Espagne. Et c'est la femme du fils de Louis-Philippe, du duc de Montpensier. Ils se sont mariés en 1946, c'était un mariage qui a fait venir toute l'Europe à Paris d'ailleurs. Et c'est une femme très jeune, à l'époque elle a 20 et quelques années. Et donc, elle se fait escroquer un bijou qui appartient à la famille royale, qui est un souvenir, bon, par un très grand, j'entre pas dans les détails, peu importe. Un employé indélicat d'une des grandes bijouteries de la place Vendôme arrive à imiter la signature de son patron et se sauve avec le bijou qui était en réparation. Et la duchesse envoie un proche avec simplement comme pièce conviction, disons comme support plus exactement,
oui, c'est ça,
un gant, un gant.
C'est toujours pour créer un lien.
Voilà.
Et à l'époque, comme vous le dites, pour le daguerreotype, en particulier en 1840, on n'en est pas encore là. Hein. Il va naître, c'est vers 1845, 1850, je me souviens plus.
Le daguerreotype, en gros, 40.
Voilà, mais c'est encore très expérimental. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des photos de la personne, puisqu'aujourd'hui, certains médiums disent qu'à partir d'une photo, ils peuvent travailler. Là, il n'y a pas de photo.
C'est rarissime.
Oui, non, mais...
Toujours est-il que le baron de Novelet, un proche de la duchesse, se rend chez Alexis avec un gant. Et à partir du gant, Alexis dit, ce gant me met en relation avec une grande dame. Donc c'est sa formule, cet objet me met en relation avec. Cette dame vient de se faire donc voler un bijou. Il décrit le bijou, on voit le roi d'Espagne qui figure sur le bijou, enfin il y a une sorte de gravure où l'effigie du roi d'Espagne se trouve. Ensuite il localise le voleur, il dit qu'il s'est sauvé en Allemagne, il dit que l'objet va se retrouver au Mont-de-Piété. Alors ça s'avère exact, l'objet est retrouvé au Mont-de-Piété, le voleur est arrêté. Et
sur ses indications.
Sur les indications d'Alexis. Et paradoxalement, ça va se retourner contre lui parce qu'à l'époque, il y a une répression judiciaire de la clairvoyance. Et on va reprocher à Alexis d'avoir fait paraître, alors il n'est pas clair que c'est lui qui l'a fait apparaître d'ailleurs, plusieurs articles sur cette affaire dans la presse parisienne. Et ça va donner l'occasion d'un procès où il va être jugé avec une dizaine de personnes.
Voilà, on lui reproche de faire de la publicité pour une pratique interdite.
Exactement. Et à l'issue de ce procès où il a comme avocat, le plus grand avocat de l'époque, Jules Favre, qui sera après dans le gouvernement provisoire de la Seconde République, qui est aussi un écrivain réputé, Jules Favre donc va faire valoir au juge que le simple fait d'exercer la clairvoyance magnétique ne peut être considéré comme un délit si des manœuvres délictueuses autres que le magnétisme ne viennent pas s'y glisser. Et comme apparemment on n'a rien de particulier à reprocher à Alexis, et que d'autre part, Jules Favre fait valoir que Alexis a fait preuve de ses dons dans de multiples multiples circonstances, et bien finalement il est acquitté. En quelque sorte, l'idée de Jules Favre est de montrer que la loi n'a pas à boucler la nature, enfin à fermer les bandes du réel.
Voilà, il y a un don que certains seraient capables d'exprimer, et on ne peut leur reprocher de posséder ce don, même si le plus grand nombre n'est pas concerné.
Exactement.
Directement.
Alors évidemment, ils sont assez embarrassés par la cliente. Il faut préciser qu'on est en 51, donc depuis le roi est tombé, et la duchesse de Montpensier n'est plus, elle n'est pas appelée la duchesse de Montpensier, mais la duchesse de Séville. Mais elle est quand même l'épouse du fils du roi.
Alors, il faut préciser également qu'on ne peut pas lui reprocher de, même s'il va gagner beaucoup d'argent, parce qu'il rencontre des aristocrates, mais il garde un comportement de charité en quelque sorte, puisqu'il accepte de recevoir les pauvres. Il fait une séance par semaine, c'est ça?
Voilà, une séance gratuite pour les pauvres. Alors c'est bon, d'abord il faut savoir qu'Alexis est lui-même d'origine sociale très humble. Son père était cordonnier, une famille de nombreux enfants. Il a été en apprentissage à l'âge de 14 ans, donc il sait ce que c'est que la pauvreté. Et c'est aussi l'esprit des années 48. Il faut évidemment faire des séances pour les pauvres. Et donc il reçoit une fois par semaine les gens qui viennent pour toujours des problèmes personnels.
Alors souvent, rappelons, il y a la recherche d'objets perdus, les gens qui ont disparu aussi à cette époque-là. Voilà. Bon, il n'y a pas de moyen facilement de localiser une personne et on obtient des éclaircissements grâce à lui.
Voilà.
Et puis il y a toute la pratique médicale, car elle existe. Il continue à avoir cette diagnostic en disant vous souffrez de ceci, vous souffrez de cela, et prenez telle thérapie.
Alors il le fait, on le sait par son procès, parce que le jour du procès il ne peut pas mentir. On sait qu'il a continuellement fait du diagnostic. Mais ça, c'est très peu, on trouve très peu d'exemples de ça dans les récits. La raison en étant que ça tombe sous le coup de la loi.
Alors, ça tombe toujours sous le coup de la loi, d'ailleurs aujourd'hui, c'est exercice illégal de la médecine. Simplement, et là on va arriver aux échecs, car il a des échecs. Alors, s'il en, peut-on associer la perception à distance sur des objets perdus, des personnes disparues, etc., et le fait de se retrouver face à une personne que l'on va ausculter de façon magnétique pour faire un diagnostic. Y aurait-il autant d'échecs dans ce domaine-là, potentiellement, ou les échecs seraient plutôt avérés lorsqu'il s'agit d'être sans aucun lien direct avec l'interlocuteur?
C'est pas facile de répondre à cette question, parce que pour pouvoir y répondre, il faudrait des récits de nombreuses séances de diagnostic avec Alexis, et on en possède trop peu, mais pour la raison que je viens de vous expliquer.
D'accord.
Apparemment, il avait des dons dans ce domaine aussi, puisque c'est ce qu'il a pratiqué à la fin de sa vie quand il s'est retiré de la démonstration publique.
Il se retire de cette démonstration relativement tôt. C'est pourquoi que cette partie médicale représente même la plus grande partie de son existence.
Oui, la deuxième partie.
Hein?
Parce que pour des raisons qui...
Il est épuisé en quelque sorte par toutes ces séances.
Pour des raisons qui restent obscures pour le commun des mortels, il semble moins fatigant pour un clairvoyant de faire du diagnostic médical que de la recherche d'objets, de la clairvoyance pure, de la démonstration publique, etc. Alors, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et donc il va se retirer, il va se consacrer uniquement à cette pratique. Et d'après la famille d'Alexis, il s'est associé à un médecin qui signait les ordonnances. Et donc le médecin semblait avoir peu d'illusions sur son propre savoir. C'est amusant, c'était imparable.
Alors, les échecs en tant que tels, peut-on établir une sorte de résultat, de probabilité, sur toutes les séances qu'il a menées publiques, le nombre d'échecs, le nombre de réussites? Les réussites l'emportent-elles sur les échecs? Et quel type d'échecs?
Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut des séries de séances qui soient décrites avec précision, et où il y ait les réussites et les échecs soient clairement mentionnés d'une façon précise. Alors, heureusement, il y a les Anglais qui ont effectué ce travail, parce que il faut encore préciser une chose, Alexis est allé faire des expériences en Angleterre, où on l'a observé avec beaucoup plus de soin qu'en France. Et en 1845, la supériorité scientifique des Anglais éclate. On est obligé de le reconnaître.
Hélas.
Heureusement. Bon, enfin, comme vous le savez. Heureusement, les Anglais se sont intéressés à Alexis.
Bien. Bon.
Et donc, par exemple, le docteur Lee à Brighton a pointé très précisément Alexis a dû voir plus de deux ou 300 tests des séries de consultants. Et là, lorsqu'on fait le bilan, on voit que, par exemple, certains jours, il échoue presque tout. Certains jours, il réussit presque tout. La moyenne étant qu'en gros, il réussit, selon les critères qu'on prend, si on prend des critères très exigeants, une fois sur trois. Si on prend des critères plus souples, une fois sur deux.
Alors, quand vous dites critères plus souples, c'est par exemple quand on lui demande de lire une phrase et qu'il n'ait la perception que de quelques mots.
Oui, il faut.
Ou qu'il y a une faute dans l'un des mots, c'est ça?
Il faut, d'une façon générale, qu'il y ait, pour homologuer, selon mes critères, moi-même posé, il faut qu'il y ait une singularité absolument irrécusable, qu'on ne puisse obtenir ni par la chance, ni par une déduction logique, ni par aucun moyen connu, sauf le compérage. Mais ça, c'est une autre question qui doit être traitée à part. Et donc, lorsqu'on fait ce bilan, par exemple, il y a des cas où Alexis va décrire une personne avec assez de précision. Supposez qu'on lui dise « Décrivez-moi mon beau-père ». Bon, il va décrire un homme, il va décrire son physique, sa personnalité, mais il ne va pas donner son nom, son adresse ou quelque autre singularité du genre il porte un bandeau sur l'œil droit, je pense par exemple à un cas comme ça. Il l'a probablement bien vu, mais on n'a pas la preuve absolue.
Oui, mais parce qu'on pourrait se dire que ça correspond à une sorte de type de personnage.
Exactement.
Et que bon, bah là, on est dans une probabilité de tomber plus ou moins juste.
Donc je prends comme cas réussi toute description où Alexis accroche une singularité irrécusable. Y compris le nom de famille d'une personne, son prénom, son adresse, ou telle particularité physique très précise.
Alors là, je vais demander à Joar Siamed, dans ce qui arrive aujourd'hui, dans les séances, avec ses perceptions qui ne concernent que l'individu lorsqu'il se trouve dans cet état modifié de conscience. Y a-t-il des éléments d'information qui remontent, qui soient indubitables, qui soient vérifiés, et au contraire, eh bien des formes d'hallucination qui ne se corroborent pas et où on ne peut pas se dire, bah, là, ça ne correspond pas à la réalité, et comment justifier ça? Puisque dans un cas ça marche et de l'autre ça ne marche pas.
Il y a quand même, je voudrais quand même rappeler deux différences. C'est-à-dire effectivement dans le cas d'Alexis, on venait le consulter,
oui, bien sûr,
on venait le consulter pour lui demander un certain nombre de choses. Bien. Dans le cas des groupes de respiration de l'utilisation de la transe, les personnes viennent pour un développement personnel ou pour dépasser une souffrance, etc.
Oui, mais
dans le cas de quand ils retrouvent un certain nombre d'éléments, j'en reviens à la question, quand ils retrouvent un certain nombre d'éléments, c'est que effectivement la majeure partie, c'est-à-dire comme si l'inconscient, au moment où les portes sont ouvertes, les portes de l'inconscient sont ouvertes grâce à la respiration, grâce à des musiques, se mettent à jour comme dans un bac de révélation, photo, se mettent à jour les éléments qui ont fait problème ou qui font problème au sujet. Donc il y a peut-être autour de ça des tas d'hallucinations ou des tas d'hallucinations bien sûr non pathologiques. Mais les éléments qui sont retrouvés, que le sujet ramène, sont des éléments qui sont vérifiables.
Oui, mais il y a ça. Ça, c'est la réussite. N'y a-t-il pas d'autres perceptions? On se dit, bah, puisqu'on est dans une logique où apparemment, à chaque fois, ça tombe juste, néanmoins, là, ce qui est remonté, ne puisse pas être authentifié.
Ah, de toute façon, on n'est pas, enfin, moi je suis pas dans l'idée de réussite ou d'échec, donc de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que parmi les éléments, comme dans un rêve, quand on raconte un rêve, on n'en rapporte qu'une partie. Hein, tout le monde, chacun sait, si on pouvait raconter vraiment tout ce qui s'était passé pendant le rêve, ce serait pas le bout de rêve qu'on raconte le matin, même si on a l'impression que c'est un rêve très long. Il y a de la même façon dans une expérience de transe, on rapporte un certain nombre de choses, mais ce n'est que la surface, comme ce n'est qu'une partie. Donc c'est vrai que parmi tous ces éléments qui sont ramenés, il y a des éléments qu'en tout cas dans l'instant, il est impossible d'aller vérifier. D'abord, c'est pas notre démarche. On demande aux gens de vérifier que lorsqu'il s'agit d'éléments, d'événements, de traumatismes revécus, c'est des traumatismes qu'ils ont vécu eux ou que leur famille a vécu, et ils vont vérifier. Mais il y a effectivement, on ne parle pas de réussite ou d'échec dans ces cas-là, on parle de quel sens ça donnait. Je crois que ce qui m'intéresse aussi, pour un prolongement dans le travail de Bertrand, c'est d'arriver à trouver le sens qu'on peut avoir, si on peut retrouver plus d'éléments, les différentes perceptions justes d'Alexis Didier, et là où on parle de demi-échec ou de demi-succès. Et je crois que là, il y a quelque chose d'un travail fondamental à faire.
Bien sûr, mais alors bon, vous amenez tout un travail, puis après, il y a les questions qui restent à poser. Et j'aime beaucoup toute la partie du livre, où vous interrogez sur, apparemment, la disparition de personnalités capables de produire ces phénomènes-là aujourd'hui. Il y a de plus en plus de voyants qui se disent être dans cette excellence d'état, or malheureusement c'est rarement le cas. Or nous sommes à une époque où la science est naissante, où on pourrait se dire que l'on se coupe avec ce monde qui a l'étiquette d'obscurantiste, et c'est là que l'on a les plus grands voyants. Dont ce prodigieux-là. Hein.
Oui, la disparition aujourd'hui, c'est plutôt, je ne sais pas si on peut parler de disparition,
oui,
c'est plutôt un recouvrement. Il y a toujours des voyants.
Mais est-ce qu'ils ont les mêmes qualités que lui?
Le problème est que aujourd'hui les voyants, ceux que je connais, ou même comme des voyants qui sont très performants comme Maud Christen, on agissent en état de conscience normale.
Vigile.
Et la question qui se pose est de savoir si justement en pratiquant une transe, il n'irait pas plus loin. Et à mon avis, l'obstacle de notre société, c'est que on a peur de se dessaisir de son moi. Et
alors,
personne ne sait produire ces extraordinaires états de transe que produisaient les magnétiseurs.
Voyez. Alors, il y a Madame de Châtelet qui, à Toulouse, travaille avec Yves Lignon et avec le docteur Beau. Et alors, elle pratique soit en état comme ça de flash, soit à travers le docteur Beau, en état d'hypnose, de somnambulisme. Il semblerait qu'elle ait parfois de meilleurs résultats en somnambulisme. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de ce voyage prodigieux. Bertrand Meheux, c'était vraiment un très très beau livre. Un voyant prodigieux, les empêcheurs de penser en rond. Et n'hésitez pas à le commander près de votre libraire s'il a déjà disparu des rayons. Et puis cet ouvrage de Joe Arciamed, Parapsychologie et Psychanalyse, aux éditions du Neuf.